Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif. Nos invités vous parleront de leur actu. Marmite et son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Marmite FM sur le 88.4, c'est votre émission du mercredi. Marmite fait son actu, on est ensemble pendant une heure pour vous parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Nos invités du jour, Zenzla d'abord, qui est le président de l'association Route 66, une association pour la promotion des logiciels libres. Il nous présentera la journée du numérique accessible à tous organisée par l'association Route 66 et les réseaux de bibliothèques bibliophiles. Trois conférences de sensibilisation sur la protection des données personnelles. Vous le savez, c'est un sujet capital. Le numérique est partout. Les démarches administratives se font de plus en plus sur Internet. Alors comment faire pour protéger nos données personnelles et éviter qu'elles soient vendues aux plus offrants? Notre invité nous explique tout ça vers 17h10. Nous recevrons également Tania, qui est à la fois membre du collectif pour le climat de Saint-Quentin-en-Yvelines et également membre actif d'Artisans du Monde. Elle nous présentera la fête des possibles. Ce n'est pas ce week-end, c'est le week-end suivant, le week-end du 5 octobre, avec plusieurs événements qui seront proposés à Saint-Quentin-en-Yvelines. Dans Marmite fait son actu, nous recevrons peut-être, je l'espère, hein, s'il n'a pas un empêchement, Alain Boucher, qui est membre des Gilets jaunes d'Elancourt. Avec lui, nous ferons un point sur la mobilisation du mouvement débuté, je le rappelle, depuis presque un an maintenant. Dans Marmite Actu, Gaël nous parlera de l'actualité du cinéma Le Grenier à sel. Le point sur l'actu local, c'est à 17h30 avec le flash de Julien Mathieu. Et en fin d'émission, si le temps le permet, nous vous rediffuserons la chronique consommation responsable de Chloé qui nous expliquait ce qu'est le zéro déchet. Allez, on ne change pas d'habitude, on commence cette émission en musique avec Alpha Blondie. Je le rappelle aux auditrices, aux auditeurs, il est en concert à la Meurise de Trappes le 12 octobre. On écoute un de ses titres phares, Brigadier Savary Musique.
Baramoro, quitte dans ça, parce que il y a fouille et parce que il y en a des fouilles. C'est évidemment le grand frère Alpha Blondie sur Marmite FM. Ça va commencer à bouillir la marmite.
Coup de poing. sabari ne ko pati sangana ninyongo tene sora tu
Pour participer en direct à l'émission Marmite fait son actu, appelez-nous au 01 30 51 78 78.
Marmite fait son actu comme tous les mercredis de 17h à 18h sur le 88.4. Allez, on va commencer avec un premier invité. C'est parti.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Et c'est Zenzla qui est avec nous par téléphone. Bonjour.
Bonjour, Nordine.
Président de l'association Route 66, association pour la promotion des logiciels libres, et également membre du collectif Café Vie Privée. Alors, Route 66 et Bibliophile organisent les journées du NAT. Alors, qu'est-ce que c'est le NAT numérique accessible à tous? Trois conférences pour sensibiliser le plus grand nombre à la protection des données personnelles. Des données personnelles pour tous, bien sûr, pour tous les utilisateurs de smartphones, de tablettes, de PC ou d'autres engins numériques en tout genre. Alors, les journées du NAT auront lieu les samedis 28 septembre, c'est à Saint-Cyr-l'École, le 5 octobre, c'est à Bailly, voilà. Et le 12 octobre, à Fontenay-le-Fleury.
Exactement, tu as tout dit.
Et pour préciser, d'ailleurs, Bibliophile, c'est un réseau de bibliothèques de Bailly, de Fontenay-le-Fleury et de Saint-Cyr-l'École.
Et de Saint-Cyr-l'École.
Ouais. Alors, Zenzla, pour commencer, est-ce qu'on pourrait rappeler aux auditrices et aux auditeurs ce qu'est l'association Route 66?
Alors, l'association Route 66, c'est une promotion, c'est une association pour la promotion des logiciels libres. Ouais. Donc, logiciels libres, c'est des logiciels qu'on utilise tous et dont le code est ouvert. Et c'est une association qui fête cette année ses 20 ans, donc ça fait 20 ans qu'on fait justement la promotion des logiciels libres. Et dans ce cadre-là, on fait des ateliers, on fait des conférences, on fait des install parties où les personnes ramènent leur PC, on leur installe Linux par exemple sur leur PC. Donc voilà, et les journées du NAT rentrent dans le cadre des conférences qu'on donne. C'est des journées qui sont vraiment dédiées justement au NAT, ça veut dire numérique accessible à tous. Ce sont des conférences qui sont vraiment à la portée de tout le monde.
Justement, c'est quoi le principe pour détailler un petit peu ces journées du NAT là?
Ben, le principe, c'est qu'il y a ces trois samedis de suite où il y a une conférence dans chaque bibliothèque. Mmh. Donc, dans chaque bibliothèque, il y a un thème. En général, on essaye d'avoir le même thème, en fait. Donc là, le thème, c'est la protection des données personnelles et de la vie privée. Mmh. Donc, on va parler de smartphone, on va parler de la sauvegarde des données aussi, qui est très importante et qu'on oublie souvent jusqu'au jour où le PC tombe en panne. On ne sait pas comment récupérer ces données. Et on va parler aussi de comment on protège ses mots de passe et comment on protège ces données qui sont dans le PC. Donc voilà, il y a un fil rouge sur une thématique. Et après ces conférences-là, ce sont des conférences qui durent à peu près 1h30, 2h. Pourquoi c'est aussi long? Parce qu'on se laisse le temps de répondre aux personnes. On se laisse le temps de proposer proposer des alternatives, proposer des solutions aux problématiques que rencontrent les personnes ou, comme j'ai dit, des alternatives, leur donner des logiciels qui sont libres et qui sont éthiques.
Alors, on va rentrer, Zenzla, dans le détail de ces journées-là. On commence donc avec le 28 septembre, c'est à la bibliothèque de Saint-Cyr-l'École. Le lieu, c'est Caso Art, c'est au rue 11 rue Ifarge, donc à Saint-Cyr-l'École. Et le sujet, c'est smartphone et vie privée, conseils de base pour protéger son smartphone et présentation d'applications Android libre. Alors, on sait que c'est quelque chose d'actualité, hein, parce que beaucoup d'articles ont été publiés récemment, même des reportages, voilà, qui présentaient le smartphone un peu comme un mouchard de poche.
Exactement. Donc voilà, donc la première conférence est à Saint-Cyr-l'École. C'est pas vraiment, c'est pas la bibliothèque, c'est avec la bibliothèque de Saint-Cyr-l'École, mais on l'a fait au Caso Art, en fait, qui est pas la bibliothèque, mais qui est endroit, c'est un endroit culturel de la ville de Saint-Cyr-l'École. Et donc, comme indiqué, on va parler de smartphone, parce qu'on le sait, le smartphone aujourd'hui, le téléphone, déjà on se posait beaucoup de questions avant la sortie des smartphones sur le téléphone. On disait qu'il était intrusif parce qu'on le portait toujours sur nous en fait. Mais avec l'arrivée des smartphones et depuis 2008 avec l'iPhone et 2009 avec la sortie d'Android, donc c'est vraiment aujourd'hui des mouchards de poche qui peuvent envoyer des données à chaque moment, à chaque instant T, et c'est problématique. C'est problématique parce que on installe quelquefois des applications, on donne des permissions à des applications qui vont envoyer nos données, on ne sait pas où, on ne sait pas à qui, et on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire de nos données. Donc nous, on va, lors de cette conférence-là, on va pas essayer d'arrêter justement la collecte de ces données-là, parce que c'est impossible, on va essayer de diminuer justement la collecte de ces données-là. Donc voilà, on va donner des conseils, des pratiques de base, hein, des pratiques, des conseils que tout le monde doit appliquer au niveau de son smartphone. On donnera aussi quelques applications libres qui limiteront cette fuite de données-là et aussi des applications qui nous permettront de voir quelles sont les applications qui sont sur notre téléphone et qui envoient nos données sans qu'on le sache pas.
Donc ça, c'est à Caso Art, donc à Saint-Cyr-l'École, au 11 rue Ifarge, et c'est à 14h, voilà.
C'est de 14h à 16h30 à peu près. Voilà, comme j'ai dit, on se laisse le temps de discuter et de proposer des solutions.
La deuxième journée du numérique accessible à tous, c'est à Bailly, donc à la salle Le Maire, 7 bis rue de Maule à Bailly. Et le sujet de cette conférence, c'est sauvegarde des données personnelles, des solutions de sauvegarde propriétaires ou libres.
Voilà, donc parce qu'on le sait, et je pense qu'à un moment donné, on a tous eu ce problème-là, qu'on perde par exemple un téléphone portable, qu'on perde notre ordinateur, et avec des photos, avec des documents qui sont très importants, parce que comme on le sait aujourd'hui, tout se fait via le numérique en fait. Les impôts, les démarches, on envoie des CV, on fait des photos, on les met dans l'ordinateur ou sur le smartphone. Et donc, la sauvegarde est le seul moyen de pouvoir récupérer ces données-là. Sinon, voilà, c'est très compliqué. Il y a toujours des solutions, mais quelquefois, elles sont très, très, très onéreuses. Donc, nous, on va donner des solutions qui sont simples à appliquer. Normalement, qui sont très simples à appliquer et qui permettront aux personnes qui seront présentes d'acquérir un savoir pour justement essayer de sauvegarder leurs données, que ce soit leurs données de leur PC ou leurs données de leur smartphone.
On va terminer avec la troisième journée donc, que vous organisez avec la bibliothèque de Fontenay-Fleury. C'est à l'espace Voltaire, donc place du 8 mai 1945 à Fontenay-Fleury, samedi 12 octobre. Et le sujet, cette fois-ci, de la présentation, c'est protéger ses mots de passe et données personnelles. Voilà, parce que les mots de passe, c'est aussi un autre... Voilà, une autre thématique importante.
Le mot de passe, c'est la clé de notre vie numérique. La clé de notre vie numérique, c'est un mot de passe. En général, les personnes, en fait, utilisent le même mot de passe partout. S'ils n'utilisent pas le même mot de passe partout, c'est que ils notent quelque part sur un post-it ou sur un calepin leur mot de passe, et donc ce n'est pas sécurisé. Donc nous, justement, on va donner des solutions à comment pouvoir générer, comment avoir des mots de passe différents sur chaque application sur chaque site ou application différente, sans pour autant oublier ses mots de passe. Donc il existe des solutions. Et aussi, on va voir des solutions pour protéger ces données sur un ordinateur, parce que les personnes ne le savent pas, mais en général, quand ils vont jeter un ordinateur ou quand ils vont donner un ordinateur, ils formatent leur disque dur. Mais récupérer des données d'un disque dur formaté, c'est quelque chose de très simple. Donc voilà, on va aussi leur donner quelques solutions à déjà protéger ces mots de passe pour éviter quand même qu'on mette le même mot de passe partout, et aussi protéger leurs données qui sont sur le PC.
Rien ne s'efface, tout se garde.
Exactement, donc vraiment rien ne s'efface, tout se garde, mais on va essayer surtout, en fait le meilleur moyen d'effacer ces données sur un disque dur, c'est de prendre le disque dur et de se déchaîner dessus avec un marteau. Quoi.
Ouais,
voilà.
Les brûler,
l'une des solutions, voilà, mais sinon tout le garder.
Mais bon. Alors c'est ouvert à qui ces trois journées, ces trois conférences que vous organisez, c'est ouvert au grand public?
Ah oui, c'est ouvert à tout le monde, hein, l'entrée est libre, c'est ouvert au grand public, tout le monde est le bienvenu à partir de n'importe quel âge en fait.
Il n'y a pas d'inscription?
Il n'y a pas d'inscription, c'est ouvert au niveau des bibliothèques. Justement, nous, Route 66, même si au début, parce que c'est la deuxième édition cette année-là, au début on se disait, est-ce qu'on fait des inscriptions? En fait, non, vu qu'on parle aussi de vie privée, donc on veut que les personnes qui viennent soient anonymes aussi. Donc voilà, donc elles protègent leur vie privée. Donc il n'y a pas d'inscription. Ils peuvent venir, il y a de la place et participer aux conférences et aux trois journées s'ils le veulent. Voilà, il y a des personnes qui viennent il y a une journée. Il y a des personnes, l'année dernière par exemple, qui sont venues aux trois journées.
Merci en tout cas, Zenzla, d'être intervenu par téléphone avec nous pour présenter ces trois journées.
Ben, de rien, juste un dernier mot. Oui. Moi, je veux remercier aussi, parce que Route 66 n'est pas uniquement, c'est pas Route 66 qui fait tout seul l'événement. Il y a aussi la bibliothèque de Saint-Cyr, et donc je remercie Céline. La bibliothèque de Bailly, je remercie Laurence et Isabelle. Et le Fontenay-le-Fleury, je remercie Aline. Donc voilà, parce que c'est grâce à eux que ces journées-là sont possibles.
Voilà, travail d'équipe donc. Merci Zenzla.
Voilà, travail d'équipe. De rien.
Marmite FM 88.4, 17h passées de 17 minutes. Ah, on a du monde aujourd'hui au studio, donc on enchaîne sans transition avec le deuxième invité de Marmite Actu.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Alain Boucher qui est avec nous, bonjour.
Bonjour, pardon.
Alors, c'est pas grave, on comprend. Alors, vous êtes membre des Gilets jaunes d'Elancourt. Notamment, vous étiez responsable. Je ne sais plus si vous êtes toujours responsable d'ailleurs.
Non,
si
les on choses ont. Voilà, alors on va dire que les choses ont évolué. Effectivement, je me suis beaucoup investi pendant les 3-4 premiers mois, y compris sur des organisations sur la ville d'Elancourt. Et puis, je reconnais que là, j'ai pris beaucoup de recul. Il n'empêche que je reste en contact avec mes camarades gilets jaunes, qu'ils soient de la région parisienne ou de province.
Alors Alain Boucher, après les vacances, peut-être que beaucoup de personnes pensaient que le mouvement des Gilets jaunes allait finalement, et enfin, peut-être que certains l'espèrent, disparaître. Finalement, voilà, ce n'est pas le cas. Il y a toujours des mobilisations qui se font soit par des manifestations le week-end, soit sinon un petit peu partout par différentes actions.
Alors tout à fait, il faut savoir, et il faut savoir aussi le reconnaître, que les mobilisations de rue s'estompent, ça perd de l'ampleur. Il y a plusieurs raisons à ça, c'est que pas oublier que ça fait 10 mois maintenant, ne pas oublier que ça fatigue, notamment les tirs de LBD et les gaz lacrymogènes, c'est pas facile à avaler tous les samedis. Mais beaucoup de mes camarades gilets jaunes ont créé depuis des associations, c'est-à-dire qu'ils s'investissent différemment. Alors ces associations ont bien souvent pour but un but caritatif, et d'autres se voient plus sur des actions politiques. Et je sais, puisque comme je vous l'ai dit, je reste en contact avec mes camarades, beaucoup souhaitent se présenter aux élections municipales. Voilà pour l'instant où on en est, mais ça veut dire aussi que les choses évoluent.
Alors vous, en revanche, vous ne souhaitiez plus manifester. Est-ce que c'était uniquement une volonté personnelle ou est-ce que c'était par rapport à ce qui se passait justement les week-ends et qui était présenté comme la guerre civile?
Je vais essayer de synthétiser parce que effectivement les raisons sont multiples. Moi j'ai une compagne qui était absolument pas gilet jaune, donc déjà ça commençait à poser un petit problème. La deuxième chose, c'est que je suis artisan, ce qui veut donc dire que arrivé au printemps, c'est là que je suis en pleine activité. Et négliger son travail pour soutenir les autres, ça a quand même ses limites. Et je me suis dit, à un moment donné, c'est peut-être moi qui vais me retrouver aussi à la rue. Enfin, à la rue hors du samedi. Ensuite, il y a eu beaucoup trop de divergences parmi ces leaders de Gilets jaunes. Je les ai pratiquement tous côtoyés. On se voyait régulièrement la semaine dans un café, la plupart du temps. Et autour de la table, on était assez d'accord le jeudi pour s'apercevoir que dès le lendemain, chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait. Il y a eu aussi la guerre des égos, il ne faut pas le cacher. Donc tout ça, c'est des éléments qui font que j'ai voulu prendre du recul et en tout cas ne plus aller manifester donc les samedis. Parce qu'à un moment donné, l'assimilation gilet jaune, casse, voyou, etc., pour moi, ce n'était plus tenable. Donc, vous voyez, ça fait quand même de multiples raisons. Mais je rajouterai quand même que les revendications et la motivation restent intactes.
Justement, est-ce qu'on peut en venir à ces revendications? Parce qu'au mois de décembre dernier, bon, ça ne vous a pas échappé, le président de la République a fait plusieurs propositions avec une augmentation de SMIC qui n'est pas vraiment une augmentation de SMIC, mais bon, qui a été présentée.
On avait eu l'occasion d'en parler.
On renvoie les auditrices, les auditeurs à cette émission où vous étiez venu. Donc, Marmite fait son actu la dernière fois que vous aviez bien expliqué. Mais là, actuellement, quelles sont les revendications, si on peut dire, globales des Gilets jaunes?
Alors, globalement, pour la majorité des gens qui se sont investis dans ce mouvement, reste le pouvoir d'achat. Alors, on a essayé de nous expliquer, pas plus tard qu'hier d'ailleurs, parce que je suis un petit peu les actualités sur les chaînes grand public, on va dire. On a essayé de nous expliquer qu'il y avait eu des augmentations liées aux 100 euros qui avaient été attribués avec une petite hausse du SMIC et selon le bon vouloir d'ailleurs des employeurs. Mais on oublie une chose, c'est que parallèlement à ça, le prix, par exemple, cette année, des fruits, des légumes, a considérablement augmenté. Le carburant, puisque c'était quand même le sujet premier, on serait où aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce mouvement? Il faut savoir que d'après mes calculs, puisque c'était prévu d'avoir une taxe encore supplémentaire, on serait de l'ordre entre 7 et 10 centimes de plus aujourd'hui si on avait laissé faire les choses. Regardez aujourd'hui ce que voulait faire le gouvernement, par exemple sur l'aide à domicile. Heureusement qu'il y a quand même des gens qui viennent là pour contester, parce que autrement ça serait passé comme une lettre à la poste.
Donc à reculer.
Exactement. Je ne peux pas tout vous citer, je crois qu'on n'aura pas le temps, mais vous comprenez bien que la motivation doit rester entière, pleine, et on doit être vigilant. S'il n'y a pas cette vigilance, on sait très bien que, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Et le naturel de ce gouvernement, c'est de faire une politique essentiellement pour les grosses entreprises, on va dire, c'est l'ultralibéralisme, et il y a toute une partie de la population qui est mise de côté, qui reste à l'écart, et non, je crois qu'il faut continuer, d'une manière ou d'une autre, mais il faut continuer à rester vigilant.
Alors, un des griefs qui était souvent porté, notamment par les détracteurs, ou en tout cas les opposants aux Gilets jaunes, c'est qu'il n'y avait pas forcément de représentants, qu'il n'y avait pas forcément d'organisation qui se faisait. Est-ce que finalement, ces personnes n'avaient pas un peu raison en se disant qu'avec peut-être une organisation, si elle s'était vraiment structurée, qu'elle s'était constituée soit en association, ou quelle que soit la hiérarchie qu'on pouvait émettre, que ce soit horizontale, verticale, bon bref, est-ce que c'est pas ce qui a manqué aux Gilets jaunes pour vraiment aller porter la parole carrément, entrer comme on dirait dans l'Assemblée nationale, au Sénat ou dans d'autres...
Alors, C'est très intéressant votre question parce que effectivement, l'une des raisons pour lesquelles je n'ai plus voulu continuer à manifester donc les samedis et en m'orientant vers autre chose, c'est qu'il n'y avait pas cette unité nationale. Or, pendant plus de 3 mois, je ne vais pas citer tout le monde, mais enfin, chacun les connaît, Aïk Chahignan, Christophe Chalençon, Éric Drouet, Maxime Nicole, j'ai eu l'occasion de tous les rencontrer. Et à tous, pendant plus de 3 mois, et je peux vous dire que ça fatigue à un moment donné, c'est de dire, ne regardez pas ce qui vous divise, mais regardez bien ce qui vous unit. Et quel est le combat que l'on doit porter ? Est-ce que c'est un combat où on a des petites revendications personnelles et certains avaient des égos un peu surdimensionnés qui fait qu'ils se voyaient bien leaders. Mais être leader, ce n'est pas une mauvaise chose, mais en mettant à l'écart un peu les autres. Effectivement, beaucoup de gilets jaunes, et j'en ai fait partie d'ailleurs, on voulait une certaine horizontalité. Mais remarquez bien que je dis « certaine », c'est-à-dire qu'elle a aussi ses limites. Or, moi, j'ai proposé non pas qu'il y ait une tête d'affiche, mais un collège. C'est-à-dire un collège de personnes qui pouvaient s'exprimer, qui représentaient ce mouvement à l'échelon national. Et là, on aurait eu du poids. Mais ça n'a jamais pu marcher. Donc, une partie de ce mouvement s'est cassée la figure pour X raisons, mais aussi pour celle-là.
Alors, j'en profite, puisque vous êtes venu avec un livre d'Ingrid Levavasseur, qui était une des figures du mouvement des Gilets jaunes. Voilà, restez, le titre de l'ouvrage, c'est Restez digne. Alors, voilà, on a peut-être tous en mémoire une image qui a été passée en boucle sur les chaînes d'information, où justement, quand elle a voulu lancer une liste, ou en tout cas s'engager dans la politique, notamment aux européennes, voilà, c'était où il y a eu toute une machine qui se lançait un petit peu contre elle, avec des insultes, etc., etc. Voilà, comment vous avez vécu ce moment ? Comment vous analysez ce moment, vous ?
Je suis très, très, très bien placé pour répondre à cette question, dans la mesure où j'ai assisté justement
à cette scène.
Et pourquoi j'ai amené ce livre ? Parce que je voulais savoir si ce que je pensais était corroboré par Ingrid Levavasseur. Et c'est tout à fait ça. À savoir qu'il y a eu Aïk Chahignan, je l'ai cité, Jean-François Barnaba qui a voulu faire aussi sa petite salade de son côté. Et Ingrid, c'est pour ça que j'ai amené son livre, Ingrid a été tiraillée un petit peu par tout le monde. Et elle le décrit très bien dans son livre. Ingrid, jeune femme, plutôt mignonne, qui présentait bien, et chacun voulait que ce soit elle qui soit tête de liste. Mais pas d'une liste, de multiples listes. Et elle le décrit très bien dans son livre. À un moment donné, elle en a eu marre parce qu'elle s'est dit quoi ? Ce n'est plus ma parole qui est portée, je suis juste un pion. Et à plusieurs reprises dans son bouquin, elle indique « j'ai été manipulée ». Y compris avec des coups plus ou moins, proches de la mafia, j'allais dire, en exagérant un peu. Parce que franchement, elle cite notamment, parce que là je me mouille, mais j'en ai rien à faire, il y avait un avocat, François Boulot, que vous avez peut-être entendu parler.
Tout à fait, qui est beaucoup intervenu sur le plateau télé.
Alors pourquoi ? Elle le dit. Il avait pu avoir un attaché de presse. Cet attaché de presse a dit « Ingrid, je m'occupe de toi », c'est-à-dire pour passer sur les plateaux, prendre les rendez-vous, etc. Qui est-ce qui en a bénéficié ? François Boulot. Et ça, elle le décrit dans son livre. Voilà pourquoi François Boulot est passé beaucoup. Certes, il a les compétences, puisqu'il est avocat en droit du travail. Il s'exprime certainement mieux que la majorité des gilets jaunes.
C'était un bon client.
Sauf qu'il a court-circuité pour beaucoup de choses, Ingrid Levavasseur. Pourquoi je cite tout ça ? C'est bien pour vous dire que ce mouvement, qui aurait pu être une très belle opportunité, finalement, c'est la majorité tirer une balle dans le pied.
Alors justement, pour terminer, Ingrid Levavasseur a même été draguée par BFM TV, hein, puisqu'il avait été question qu'elle devienne chroniqueuse,
elle voilà, explique aussi.
Ponctuelle.
Voilà, elle explique aussi.
Etc.,
voilà.
Etc. Bon, bref, on ferme la parenthèse. Alors pour terminer, Alain Boucher, quel est l'avenir de ce mouvement des Gilets jaunes pour vous? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer vraiment... parce que certains disent que ce qui a été proposé par le chef de l'État... peut être considéré comme une avancée majeure, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu le mouvement des Gilets jaunes dès novembre dernier, les prix de l'essence auraient augmenté. Voilà, il y a des choses qui n'auraient peut-être pas été faites de la même façon. D'ailleurs, le chef de l'État l'a reconnu lui-même dans des interviews, sincérité ou pas, ça, voilà, on ne sente pas les cœurs, mais en tout cas, il a reconnu que le mouvement des Gilets jaunes l'avait fait bouger. Et que voilà, intérieurement aussi, ça l'avait fait changer. J'ai changé. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour faire avancer ce mouvement?
Alors, pour en revenir à Macron, que les choses soient claires, il a toujours été dans la com et l'enfumage. Il y avait un grand débat qui avait été savamment orchestré, parce que pour faire son cirque, il est très bon. Hein, ça, il faut le reconnaître. Mais à l'issue de ce grand débat, qu'est-ce qui devait en ressortir? Il devait y avoir des citoyens tirés au sort qui devaient éplucher un petit peu tout ce qui avait été dit pendant ce grand débat. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il en a été? Rien. Nada. Après, je vais continuer. Macron, là, je crois que c'était hier, hein, s'est adressé à l'ONU. Il a fait...
Suite à la sortie,
très beau discours sur donneur de leçons, hein, pour tous les pays.
Notamment
il a
Pologne,
dit également qu'il faut le courage pour l'écologie, pour la transition énergétique. Je vous signale que dans le même temps, lorsqu'il y a eu une manifestation à Paris pacifique, ben certains manifestants se sont fait gazer et matraquer. Alors il y a ce que je dis et ce que je fais. Deux poids, deux mesures. Donc, je vais encore répéter la même chose, il faut rester vigilant. Alors là, un certain nombre de Gilets jaunes ont commencé à prendre conscience que des organisations, ça allait être plus pérenne. C'est-à-dire qu'on va tenter le coup aux élections municipales, on va commencer à montrer aussi que nous sommes des gens responsables, et tôt ou tard, on aura un poids, y compris à l'Assemblée nationale. Parce que de toute façon, les manifestations de rue, bah, ça va durer qu'un temps, que les choses soient claires. Et qu'il faut dire, nous contestons, nous revendiquons, mais aussi nous proposons.
Alain Boucher, donc Gilet jaune d'Elancourt, qui est avec nous. Ben, restez avec nous, Alain Boucher. On va juste écouter le flash d'actualité locale de Julien Mathieu. Et on continue notre discussion avec Tania également, voilà, puisque les deux mouvements se sont rejoints, en tout cas ponctuellement, samedi dernier. Flash Actu.
Bonjour à toutes et tous. Île-de-France Mobilité a lancé Véligo Location, un nouveau service de location longue durée de vélos électriques. Objectif, diminuer la voiture et favoriser l'environnement. Alors pour obtenir un vélo électrique, il faut d'abord créer un compte sur le site internet veligo-location.fr. Il faut un RIB, une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Le tarif est fixé à 40€ par mois et 20€ pour les étudiants. Et l'abonnement mensuel peut être pris en charge à hauteur de 50% par l'employeur. Une fois votre vélo commandé, il suffit d'aller le retirer dans le point de livraison choisi. Si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant cette location de vélo électrique francilien, rendez-vous donc directement sur le site internet veligo-location.fr. La ville d'Elancourt est en train de développer son système de vidéosurveillance. Elle a signé vendredi dernier un partenariat avec l'entreprise canadienne Gentech. Cette société est leader mondial dans le domaine de la sécurité et elle promet d'offrir de nombreuses innovations à Elancourt. Reconnaissance de plaques d'immatriculation, contrôle d'accès ou encore gestion à distance de l'éclairage et des alarmes dans les bâtiments municipaux. Ces technologies pourraient également équiper le futur commissariat d'agglomération prévu pour 2024, mais la ville compte aussi s'équiper de drones lorsque la loi le permettra. La semaine dernière, nous avions fait part de l'alerte lancée par les maires de Villepreux et Guyancourt au sujet de l'épandage des pesticides trop proches des habitations. Eh bien, Didier Fischer, maire de Coignières, a lui aussi écrit à la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, pour l'inviter à se prononcer sur ce sujet. Affaire à suivre, donc.
Merci Julien pour ce flash actu. Allez, on respire un petit peu en musique avec le groupe Mountain Fire, un groupe de rock de Rambouillet. Voilà, ils sont originaires de Rambouillet. Ils sont en concert à la batterie le 3 octobre. On écoute le titre Inari Music. Mountain Fire sur les ondes de Marmite FM 88.4. Je rappelle qu'ils sont en concert à la batterie de Guyancourt le 3 octobre prochain. Et les morceaux que nous venons d'écouter, c'est Inari. Allez, on continue notre entretien. Alain Boucher, membre des Gilets jaunes d'Elancourt, qui est avec nous, et Tania également, qui est membre du collectif pour le climat de Saint-Quentin-en-Yvelines et également d'Artisans du Monde, avec nous pour nous présenter la fête des possibles. Bonjour Tania.
Bonjour.
Alors, on en a parlé un petit peu déjà de ce mouvement des Gilets jaunes et qui a rejoint la marche pour le climat de samedi. Enfin, on peut dire que c'est la marche pour le climat qui les a rejoints aussi, parce que les Gilets jaunes, la mobilisation a été un peu plus ancienne, en tout cas sur les manifestations de samedi. Alors, comment s'est passée cette manifestation, Tania? Parce que vous étiez du côté de Versailles oui. Samedi.
Samedi matin, effectivement, à 11h à Versailles, on a commencé à marcher ou se figer ou applaudir, bon, faire un clapping comme l'équipe à l'époque de...
Ah, c'était l'Islande, qui avait popularisé le clapping pendant la Coupe d'Europe.
Une minute de silence pour pleurer l'état de notre planète. À Versailles, avec malheureusement un peu moins de monde qu'on attendait. On voulait faire plus que la fois d'avant, on était 1000, et là je pense que le compte de 750 est juste. On était chaud, mais on était moins nombreux que la fois d'avant, et ça s'est répété à Paris l'après-midi. La marche des écologistes et ceux qui sont pour défendre le climat ont été moindres que la grande marche du mois de mars. Et effectivement, il y a eu un petit peu de convergence avec les gilets jaunes jusqu'à ce qu'un black bloc gâche le tout.
Alors on a souvent tendance à opposer gilets jaunes et marcheurs pour le climat ou écologistes. Alors pour faire caricatural, certains gilets jaunes peuvent penser que les écologistes sont un peu des bobos qui ne comprennent rien aux problématiques, notamment des Français qui vivent dans les campagnes et qui ont besoin d'utiliser leur voiture, etc. etc. Puis de l'autre côté, voilà, il y a peut-être la caricature de part et d'autre.
Moi, je rajouterais que les deux combats ne sont pas incompatibles. Ouais. Le problème, c'est en fait, c'est ce qu'on nous fait croire. Alors même que vivre, Tania, comme moi, nous avons certainement des enfants et petits-enfants, et qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous ? Donc, gilets jaunes, c'est évidemment d'abord des mesures économiques, mais ça ne veut pas dire qu'on est indifférent au sort du climat et de la planète. Donc, arrêtons de nous opposer alors que c'est complètement faux.
C'est absolument compatible dans la mesure où il ne peut pas y avoir de justice économique sans justice climatique. Les deux vont main dans la main. On ne peut pas les séparer. Effectivement, c'est ce qu'on nous a voulu faire croire. Je crois que malheureusement, quand on schématise, bien sûr, on a quelques différences. Mais ce ne sont pas des différences de fond.
Alors justement, Tania, une des actions que vous êtes venue proposer... dans toute cette lutte contre le réchauffement climatique et pour la préservation de la planète, il y a beaucoup de choses qui sont faites un peu partout dans le monde. C'est la fête des possibles qui aura lieu à Saint-Quentin en Yvelines le week-end du 5 octobre. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'est cette fête des possibles ?
Alors, autrefois, ça s'appelait la fête de la transition. Transition, pour nous, veut dire on n'utilise plus d'énergie fossile, le moins possible, petit à petit, le plus rapidement possible. On sait que ça ne va pas se faire du jour au lendemain.
Et avec tous les enjeux qu'il y a, hein, que ce soit les enjeux économiques, géostratégiques, géopolitiques. Ouais.
Il y a effectivement urgence. Et la fête des possibles aura lieu samedi 5 octobre à Saint-Quentin-en-Yvelines, de 11h à 17h. C'est un regroupement, donc comme encore un collectif. Ouais. D'une vingtaine d'associations qui œuvrent déjà sur différentes thématiques. Il y a la mobilité douce. Il y a deux associations, il y a Véloski et la bicyclette. Pour l'énergie, pour qu'on transitionne vers des énergies renouvelables avec Enercity et Enercop. D'autres qui s'occupent plus des plantes, des semences, question absolument fondamentale, avec des bacs incroyables comestibles. Ce sont des moyens aussi de créer du lien social dans un, au pied d'un immeuble ou dans un quartier. Même les jeunes nous rejoignent. La Youth for Climate Saint-Quentin-en-Yvelines fait aussi partie de notre collectif. Il y a un Skylab qui peut apprendre aux gens comment réparer au lieu de jeter. Donc on est tous contre la surconsommation, la surproduction. Et Artisans du Monde et Ygren vont faire des animations pour montrer comment une production responsable mène, avec une consommation responsable, à beaucoup d'économies et une amélioration du climat petit à petit.
Alors quand vous voyez ce qui se passe, notamment, voilà, on a eu cette jeune fille... Greta Thunberg, bon, on ne va pas débattre sur Greta Thunberg, il y a beaucoup de choses à dire sur elle, mais quand vous voyez la réaction politique qu'a suscité l'intervention de Greta Thunberg, est-ce que vous vous dites que finalement, puisqu'apparemment les politiques ont passé plus de temps à vilipender cette jeune fille, hein. À tort ou à raison, hein, chacun pensera ce qu'il veut, mais plutôt que de proposer et de mettre autant d'énergie sur des propositions, en tout cas pour sortir de la crise. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de toute cette séquence?
Je pense que c'est de la politique politicienne, parce que bon, Greta est devenue une icône. Y en a une autre qui monte aux États-Unis qui s'appelle Alexandria, qui n'a que 14 ans et qui a réussi une mobilisation de plus de 250 000 personnes à New York. Donc le mouvement des jeunes est un peu faiblard en France par rapport à l'Allemagne et d'autres pays. Même aux foutus États-Unis, avec leur Trump qui ne veut pas, qui est climato-sceptique, mais c'est pas l'ensemble de la population. Je trouve que les grands hommes politiques ont d'autres choses à faire que de casser du sucre sur le dos d'une jeune fille de 16 ans qui dit la vérité. Elle se renseigne, c'est chiffres sont justes, elle parle de façon très compréhensible et très complète des problèmes, et je suis d'accord avec elle, si les gens ne veulent pas écouter une gamine, qu'ils écoutent les scientifiques.
Est-ce que vous restez quand même optimiste, là vous nous parliez à l'instant de cette mobilisation de samedi qui était un peu moindre que celle du mois de mars? Alain Boucher aussi nous disait que voilà, et peut-être que c'était en train de muter au niveau de la mobilisation, qu'on la voyait peut-être, on la verrait beaucoup moins dans la rue, mais plus dans des actions politiques concrètes.
Est-ce que, absolument, mais c'est même une très bonne chose, parce que quand on marche, quand on fait une marche de protestation de 2 heures, on obtient quoi? On se rend visible, on prêche des convaincus. Là, on va faire des ateliers, on va apprendre à certaines personnes, peut-être qui ne savent pas, qu'on peut se passer de beaucoup de plastique en faisant soi-même son dentifrice, ses cosmétiques, ses produits de ménage. Donc c'est du concret. Ce sont des choses qui se font, qui vont dans le bon sens, et on veut simplement que plus de personnes nous rejoignent. Et s'ils n'ont pas envie de marcher, eh bien qu'ils plantent. Qu'ils apprennent, qu'ils fassent du compostage, il y a plein de choses. Donc on s'adresse à des gens qui veulent des choses pratiques, de tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire, moi?
Qu'est-ce que je peux faire concrètement, ouais. Mm-hmm. Mais merci en tout cas à tous les deux d'être venus au micro de Marmite FM pour nous parler, Alain Boucher, du mouvement des Gilets jaunes, et Tania, de cette fête des possibles. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu la semaine prochaine. Merci en tout cas, c'était très intéressant. Et vous restez avec nous, on va parler un peu cinéma de proximité, bien sûr, parce que c'est le cinéma de la ville de Trappes, le Grenier à sel. C'est parti.
Tout de suite, l'actualité du cinéma, le Grenier à sel, avec Gaël.
Bonjour Gaël.
Bonjour Noradine, bonjour tout le monde. Oui, ça va, merci.
Alors comme chaque semaine, tu nous parles de l'actualité du cinéma Le Grenier à sel, et puis après tu nous parles des films que vous diffusez à l'écran. Oui. Alors, quelle est l'actualité du cinéma?
Alors, je vais faire un petit mélange de plein de choses. Je vais vous parler des soins palliatifs, de la fin de vie, mais pas que. Je vais aussi vous parler de jeunes femmes à Alger. Je vais aussi vous parler de foot, de reggae. Voilà, c'était un petit la petite intro de l'émission.
C'est ce que les Anglais appellent le teasing.
Oui, et en français, tu le dirais comment?
Je sais pas, l'effet d'annonce. Je sais pas, l'effet d'annonce.
Tu retombes bien sûr.
Voilà, parce que Tania était professeur. Voilà, non, de russe en plus. Je dis n'importe quoi, j'allais dire, t'es professeur d'anglais. Je corrige. Oui, vas-y, Gaël.
Je vais commencer. Nous sommes mercredi. Pour ceux qui écoutent en direct, et ce soir, donc mercredi, nous avons un débat au cinéma, avec le Pallium. Le Pallium, c'est une association de promotion des soins palliatifs à domicile. On a souvent organisé des débats avec le Pallium. Là, ce sera autour du film Fin de partie, c'est à 20h45. Fin de partie, c'est l'histoire de 5 pensionnaires d'une maison de retraite qui décide de qui voit un ami qui est un petit peu malade, qui est malade et qui souffre, Et là, l'épouse de ce malade demande à ses amis de construire une machine pour mourir en paix. Donc on va suivre ces personnes âgées qui vont partir sur ce projet. C'est une comédie dramatique, donc il y a aussi des moments qui sont assez foufou, assez délirants. Voilà, on en parle ce soir au Grenier à Sel.
Et puis il y a une discussion qui sera faite juste après avec l'association Le Pallium.
Oui, merci de le préciser.
Bah justement, j'en profite pour présenter, représenter peut-être aux auditeurs ce qu'est Le Pallium, parce qu'on avait fait une série d'émissions, ça nous rajeunit pas, c'était en 2008. Voilà, on les écoute présenter cette association.
Le Pallium, c'est comme un réseau d'aide à l'attention des professionnels de santé, comme les kinésithérapeutes, les médecins généralistes, les infirmières, le psychologue, le pharmacien, mais également à l'attention des familles et des malades. Donc les familles ont chez eux un malade atteint d'une maladie grave, et le réseau de santé, le Pallium, va soutenir ces familles, ce patient et ces professionnels de santé autour, pour que ce patient soit bien pris en charge tout au long de sa maladie, depuis le début de la maladie et éventuellement jusqu'à la fin de la maladie. Un des grands axes aussi du Pallium, c'est le traitement de la douleur, le soulagement de la douleur, car c'est quelque chose de très important. Et depuis 10 ans, nous avons vu progresser les professionnels de santé dans la prise en charge de la douleur, mieux apprendre à prescrire les traitements, et les familles à aussi accepter des traitements qui petit à petit deviennent plus forts, qui peuvent aussi être des traitements à base de morphine, mais qui sont maintenant tout à fait pratiques à utiliser et avec beaucoup moins d'effets secondaires qu'avant, puisque la recherche scientifique a permis des molécules adaptées aux patients.
Voilà, c'est le docteur Noël Vescovalli qui présentait le Pallium. Bon, ça remonte un petit peu, mais c'est toujours la même association qui travaille sur les mêmes thématiques.
Oui.
Donc voilà, il y aura une discussion avec des membres du Pallium juste après la diffusion du film.
Exactement, et c'est toujours très intéressant et très enrichissant. Donc même si vous êtes, tout le monde n'est pas concerné par les soins palliatifs, mais c'est toujours intéressant. Alors, je vous ai dit qu'on allait en parler aussi de jeunes femmes à Alger. J'ai eu un gros coup de cœur pour un film qui s'appelle Papicha, qui se passe donc à Alger dans les années 90. Tout le monde se rappelle ce qui s'est passé en Algérie dans les années 90.
Oui, et... contexte avec le Front islamique du salut, notamment les exactions et les découpages de têtes, des trucs ça, très sympathiques.
Voilà, c'est ça. Donc là, on va suivre une jeune femme, une jeune étudiante qui a 18 ans, qui habite dans une cité universitaire. Et elle a envie d'être styliste, d'être dans la mode, et elle rejette, elle veut continuer à vivre malgré ce contexte. Donc c'est un peu de la résistance. Donc ce film m'a beaucoup plu, et je vous propose donc en avant-première le vendredi 4 octobre au cinéma Le Grenier à Sel, donc à 20h45. Je vous ai parlé aussi de reggae. Je garde le foot pour après. Je commence par le reggae.
Oui, parce que tu as bien écouté le début de l'émission. On a diffusé un morceau d'Alpha Blondy,
oui,
qui est en concert le 12 octobre à la Meurise. Avec en première partie un artiste local, c'est Abou,
oui,
qui présentera son Afripop.
Son Afripop, tout à fait, Abou. Et ben donc, ça sera le 12 octobre. Et bien, au Grenier à Sel, je propose le 13 octobre, le lendemain, pour ceux qui sont allés voir, pour tout le monde, mais notamment ceux qui sont allés voir Alpha Blondy, sur présentation de leur place de concert à la Meurise. Je leur propose un tarif réduit pour voir un documentaire sur Ina de Yard. C'est un documentaire français sur un groupe de reggae qui a connu son âge d'or il y a une trentaine d'années. Et aujourd'hui, il se reforme pour refaire des concerts. C'est toujours plein de vie, plein de soleil. Et donc, Ina de Yard, le 13 octobre. À 20h45.
Ah, donc ne jetez pas vos places, ne vos tickets de...
Gardez vos tickets.
De concert.
Bon, alors, les films de ça, maintenant je vous parle des films de la semaine. Et c'est là qu'on va enchaîner sur le foot. J'ai bien entendu parler tout à l'heure de Clapping. Ça m'a fait penser à l'équipe de foot islandaise. J'ai un film sur l'Islande qui se passe en Islande. Il y a quelques années, il y avait eu un film qui s'appelait Bélier. Un petit peu plus tard, il y a un autre film qui s'appelait Woman at War. Le cinéma islandais est en forme. Et donc là, on a Mjölk. Il y a un sous-titre dont je me souviens plus, La guerre du lait, je crois. On est avec Inga et son mari qui ont une exploitation laitière pas loin de Reykjavik. Et la capitale islandaise. Le mari décède. La femme, donc Inga, reprend les rênes de l'entreprise. Et elle découvre qu'il y a un monopole abusif des coopératives agricoles, qu'il y a un système mafieux. Et elle dénonce tout ça et elle met en place une lutte incroyable. comme on a pu voir dans Woman at War d'ailleurs, des choses incroyables. On a les paysages fantastiques d'Islande, on a une femme très forte et on a bien sûr l'actualité sur l'agriculture. C'est vraiment un coup de cœur, je vous conseille ce film, donc Mjölk.
Mjölk qui doit vouloir dire peut-être lait en islandais. Voilà, parce que ça ressemble à milk, mjölk, je ne sais pas.
Mais certainement, je me suis dit la même chose.
C'est ça complètement au hasard, oui, oui. Vu par rapport au sous-titre que tu me dis. Voilà, aux petites...
La guerre du lait, je crois.
Ouais, bon.
Nous avons, allez, j'enchaîne sur, je vous ai parlé de foot, l'Islande, c'est pour ça le camping tout à l'heure. C'était un enchaînement un peu simplé, un peu simpliste. J'ai un autre enchaînement sur le foot qui est du même ordre. Une personne qui s'est fait reconnaître par des travers un petit peu du foot. Là, vous vous demandez de quoi on parle.
Mais de qui on parle ?
Mais oui, de qui on parle ? C'est une femme qui est l'actrice principale d'un film. Elle s'appelle Zaya Dehar. On a entendu parler d'elle, effectivement, pour des histoires de vidéos, etc., dans le monde du foot. Oui, tu te dis, quel enchaînement, c'est incroyable.
Oui, quel enchaînement. On rappelle quand même, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas l'affaire, c'est des footballeurs connus qui sont allés voir... des femmes qui vendaient certains services, n'est-ce pas, pour parler de manière très policée, et qui se sont fait prendre la main dans le sac, si on peut dire ça, comme ça. Ouais, c'était pas la main, me souffle à la bouchée. Ça avait fait toute une polémique, notamment
c'est
le
très policé.
Ouais, voilà, Karim Benzema, Franck Ribéry.
T'y vas, toi, en plus, hein, ça y est, tu...
Ah bah non, c'était connu, de toute façon. Oui. Bon, bref.
Bah donc, elle a eu une vie après ça, elle a peut-être profité de cette notoriété... qui lui est tombé dessus pour lancer, elle est devenue mannequin, elle a lancé une ligne de vêtements, je crois,
de lingerie.
Je sais pas bien tout ça. Eh bien, elle a été choisie pour tenir le premier rôle d'un film qui s'appelle Une fille facile. Je crois qu'on reste un petit
comme
peu
comme c'est original.
Oui. Voilà. C'est Rebecca Zlotowski, la réalisatrice, qui l'a choisie pour parler de la vision, telle que sont vues les femmes dans la société. Les interdits. Ça se passe à Cannes, sur la Côte d'Azur, bien sûr. Une jeune femme de 16 ans qui s'appelle Naïma passe son été à se demander ce qu'elle va faire de sa vie plus tard. Pendant l'été, elle passe son été avec sa grande cousine qui est jouée par Zaya Dehar. Et dans le film, elle a un mode de vie qui est un petit peu attirant, qui va très séductrice, qui profite aussi un peu des hommes. Donc on est aussi dans cette ambiguïté.
Ouais.
Voilà, elles vont passer ensemble un été inoubliable. On retrouve aussi Benoît Magimel dans ce film. Donc, je vous ai parlé de Mjölk, je vous ai parlé d'une film facile, je vous ai parlé de Fin de partie qui est ce soir mercredi. Nous reprenons aussi Comme des bêtes 2 pour les enfants à partir de 6 ans. Et il nous reste un dernier film qui s'appelle Fête de famille de Cédric Kahn, dans lequel on retrouve Catherine Deneuve, Emmanuel Berco, Vincent McCain, etc.
Et Cédric Kahn qui fait du cinéma, ça s'invente
pas. Et Cédric Kahn qui est aussi acteur dans ces films.
Qui est aussi acteur en plus. Bon, oui. Il aura peut-être la palme un jour.
On est dans une histoire de famille. La maman, qui est Catherine Deneuve, fête son anniversaire et elle invite tout le monde. Et bien sûr, que ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas vu une des sœurs, Andrea, la fille aînée. Et elle débarque le jour de la fête de famille. Et bien sûr, ça fait plaisir à certains, un peu moins à d'autres. Il y a un peu des clashs. Ça a bouleversé le programme de l'anniversaire de Catherine Deneuve. Vous découvrez tout ça et même plus sur notre site internet cinemagreniersel.com.
C'est très bien dit, très belle conclusion. Cinemagreniersel.com, voilà, c'est le site.
D'habitude, je te laisse le dire, mais là, j'avais envie de le faire.
J'avais envie de le faire. Merci Gaël.
Merci Nourine.
Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. C'est terminé pour cette heure de direct. Je vous laisse avec Jean-François et son émission sur la chanson française non crétinisante, c'est comme ça qu'il l'appelle, Le temps ne fait rien à l'affaire, c'est à 18h pétante. Merci à Julien, à la technique, et bonne suite de programme sur Marmite FM, à la semaine prochaine.
Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite et son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.